journal qui vous est présenté ce soir par Mathilde Cariou. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir à toutes et à tous. 7 morts et une dizaine de blessés, bilan revu à la hausse après l'attaque de Kharkiv en Ukraine. L'armée russe multiplie les tirs de missiles sur la deuxième ville du pays. Négociations diplomatiques cet après-midi au Kenya. Le ministre français des Affaires étrangères poursuit son rapprochement avec Nairobi. À la veille de la commémoration du génocide au Rwanda, nous reviendrons sur les difficultés rencontrées par les journalistes pour exposer le rôle de la France dans ces massacres. Enfin, c'était la figure du cirque équestre, pionnier et référence dans l'art du dressage. Alexis Grus est décédé à 79 ans. Plus de systèmes de défense anti-aérienne. C'est la demande adressée par Volodymyr Zelensky à ses alliés après les frappes qui ont fait 7 morts et une dizaine de blessés la nuit dernière dans la ville de Kharkiv. Double frappe contre des civils, c'est la méthode qu'applique l'armée russe depuis plusieurs jours déjà. Récit de notre correspondante à Kharkiv, Agathe Mahué, avec Jérémy Tuil et Yachar Fazilov.
Des frappes nocturnes sur des habitations deux fois en 48 heures. Et dans ce quartier de Kharkiv, une station essence, un centre commercial également touché. Les dégâts sont importants. 3600 vitres soufflées d'après le maire. Et dans les heures qui suivent, la même scène qu'avant-hier. Un grand nettoyage, les machines déblaient les débris. Les missiles sont passés juste au-dessus de chez nous, dit cette dame. Ça a fait un grand flash, puis des explosions très très fortes. Car ce sont bien des missiles S-300 qui ont semé la mort parmi des habitants et des employés de la station-service, avec à nouveau cette tactique russe d'une double frappe sur les civils. Le temps pour les secours d'arriver sur place et l'armée de Vladimir Poutine vise le même lieu une deuxième fois. C'est ce qui a coûté la vie il y a 2 jours. À 3 secouristes. Kharkiv qui subit aussi des attaques de drones sur les infrastructures énergétiques. Depuis 2 semaines, le vacarme des générateurs a fait son retour sur les trottoirs car pendant plusieurs heures chaque jour, la deuxième ville d'Ukraine est totalement privée de courant.
Par ailleurs, le chef de l'armée ukrainienne fait état d'une situation difficile sur les positions de Bakhmout et d'Avdivka. Sur Telegram, il dénonce la supériorité en nombre et en armes des troupes russes qui tentent de rejoindre la région de Donetsk. Une délégation du Hamas attendue au Caire demain pour de nouvelles négociations avec Israël. Le Hamas affirme qu'il ne renoncera pas à ses exigences, à savoir un cessez-le-feu complet, le retrait des forces d'occupation de Gaza et un échange de prisonniers. De son côté, l'armée israélienne affirme avoir récupéré ce matin le corps d'un otage capturé le 7 octobre. La sœur de la victime accuse le gouvernement israélien d'avoir trop tardé à signer un accord de libération au mois de novembre dernier. Des affaires et de la politique au menu des échanges entre la France et le Kenya. Le ministre français des Affaires étrangères effectue sa première tournée africaine aujourd'hui avec un passage par Nairobi. Les deux pays se rapprochent progressivement grâce à un partenariat qui a été renforcé en 2019 avec la venue du président Macron. Aujourd'hui, c'est donc son ministre qui lui succède avec au programme un peu d'économie, mais surtout beaucoup de diplomatie, Nathanaël Charbonnier.
Premier dossier commun sur lequel travaillent nos deux pays, celui d'Haïti. Le Kenya a été chargé par les Nations Unies d'y ramener la sécurité. La France participe à la formation des soldats avec une enveloppe de 3 millions d'euros, ce dont se réjouit son homologue kényan, Musalia Mudavadi.
Nous apportons notre soutien aux Haïtiens, notamment pour améliorer la sécurité dans leur pays. Et nous apprécions réellement l'aide financière et logistique apportée par la France et d'autres partenaires pour faire de cette mission un succès.
Kenya-France main dans la main en Haïti, mais aussi au Soudan, à l'initiative de la France, de l'Allemagne et de l'Europe. Une conférence aura lieu mi-avril à Paris pour aider ce pays en guerre, en présence du Kenya, qui adhère à la démarche française de faire qu'on n'oublie pas cette crise. Stéphane Séjourné, le ministre français.
Le premier objectif, c'est qu'on parle du conflit. C'est une crise oubliée. Et donc il faut mobiliser la communauté internationale. Des centaines de milliers de personnes souffrent, la famine se fait et la crise ukrainienne et la crise à Gaza éclipsent en quelque sorte de l'actualité cette tragédie.
Et autre objectif de la conférence, lever des fonds pour la population soudanaise qui en a grandement besoin.
Stéphane Séjourné qui poursuivra demain sa tournée au Rwanda à l'occasion de la commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis. 80 000 morts en l'espace de 3 mois. Le ministre devra renouer avec les autorités de Kigali après des périodes difficiles liées au rôle de la France dans ces événements, notamment la violation de l'embargo sur les armes que Paris aurait vendu aux Hutus, mais aussi la présence sur le territoire français de génocidaires présumés. Les quelques journalistes qui ont essayé de travailler sur ces questions-là ont souvent été confrontés à la justice pour diffamation, pour injure publique. Analyse avec Mathieu Laurent.
13 mars 2023, à la barre, Laurent Larcher, journaliste au quotidien La Croix, spécialiste de l'Afrique, et Benoît Colomba de la cellule investigation de Radio France, tous deux accusés de complicité de diffamation, ont publié le témoignage d'un humanitaire français qui se trouvait à Goma, en RDC, dans l'enceinte de l'aéroport, sous le contrôle des militaires, de la controversée opération turquoise. Benoît Colomba.
Cet humanitaire raconte qu'il a vu un jeune Français expliquer qu'il débarquait des caisses d'armes à destination des génocidaires en juillet 1994, alors que bien évidemment les livraisons d'armes étaient interdites par une résolution des Nations Unies.
Nos deux confrères seront relaxés, mais que nous dit cette histoire ?
Je pense que cette histoire montre l'extrême sensibilité du sujet aujourd'hui encore sur cette question des livraisons d'armes. Et pour moi, ça reste un point aveugle. Elle est encore là comme un éléphant au milieu de la pièce.
Aloïs Tiwira-Gabo était chef du renseignement militaire pendant le génocide. Juillet 2020, un journaliste de Mediapart le localise près d'Orléans. Maria Malagardis, spécialiste du Rwanda Libération, interpelle alors via les réseaux sociaux le ministère de la Justice ainsi que la présidence de la République. Elle sera poursuivie par le haut gradé rwandais et jugée pour injure publique.
Il faut savoir que tout journaliste français qui s'intéresse au rôle de la France au Rwanda se place dans une situation de fragilisation. C'est pas nouveau, c'est récurrent. Il y a des interventions auprès de votre rédaction. Il y a parfois des façons de vous stigmatiser, même dans des cercles privés, mais dont on finit par avoir écho. Et il y a des actions judiciaires qui se sont multipliées ces dernières années. Et il y a une volonté de la part de ceux qui étaient aux commandes à l'époque, une volonté manifeste de ne pas vouloir que cette vérité éclate, que cette histoire-là soit revisitée.
Aloïs Tiwira-Gabo a perdu en première instance, mais il vient de faire appel à quelques semaines des commémorations du génocide.
Mathieu Laurent pour France Culture. C'est une victoire pour tous les Français qui ont besoin d'être accompagnés. Réaction de la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, alors que le gouvernement a annoncé plus d'1 milliard d'euros sur 10 ans pour les services de soins palliatifs. Deuxième pilier de son plan pour la fin de vie, un mois après les annonces sur l'aide à mourir. Enfin, il était maître écuyer, saxophoniste, chevalier des arts et des lettres et de la Légion d'honneur. Alexis Grus est mort aujourd'hui après un accident cardiaque. Il avait 79 ans. Alexis Grus est une légende du monde du spectacle. Il dirigeait le cirque du même nom depuis les années 70. Bonsoir Estelle Camerer.
Bonsoir Mathilde.
Le cirque Grus a été surtout une révolution dans la pratique de l'art équestre.
Une révolution qui commence avec le cirque à l'ancienne, le chapiteau qu'Alexis Grus monte en 1974. Alors qu'il n'a que quelques membres de sa famille avec lui, un éléphant, 2 chevaux et 4 poneys. La comédienne Sylvia Montfort lui tend la main et lui propose 15 jours de spectacle au Carré Torigny, en face de l'actuel musée Picasso, dans le 15e arrondissement. Finalement, le chapiteau restera 10 ans sur place. Aujourd'hui, le cirque à l'ancienne est reconnu comme une figure majeure du milieu circassien, ce grâce aux exercices équestres qu'ils ont placés au centre de tous leurs shows. Les Grus vont même inspirer des spectacles hippiques, comme le théâtre équestre Zingaro et le théâtre du Centaure, créé à la fin des années 80. Dernièrement, les Grus ont fêté les 50 ans de création à Paris, avec les Folies Grus, une grande comédie musicale avec 50 chevaux et 25 artistes. Alexis Grus, qui est resté sur scène proche de ses bêtes jusqu'à la fin, a surtout inspiré sa famille sur plusieurs générations. C'est ce qu'il expliquait à Bernard Thomasson en décembre 2013 sur les antennes de Radio France.
Dans le mot savoir-faire, savoir c'est le cerveau et faire c'est la main. Dans notre famille, on a su conjuguer les deux. Et lorsque vous êtes debout sur les cinq étalons très russes et postiers bretons, et que vous voyez toute votre famille en équilibre sur ces chevaux-là, je trouve que voilà, c'est des moments d'émotion formidables qu'on doit partager avec les autres.
La cérémonie funéraire se tiendra jeudi prochain à 9h30 dans l'intimité familiale.
Merci Estelle Caméraire. Un mot du temps qui va se rafraîchir demain. Il sera voilé sur toute la moitié est du pays. Des nuages au centre et du soleil sur les pointes bretonnes et normandes. Les températures dans la matinée sont comprises entre 12 et 20 degrés. Il fait 13 à Lille et Rouen, 15 à Paris, 16 à Metz, 19 à Marseille et 20 les maximales du côté de Lyon.